Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du débat politique de ce jour. Il est dédié à la grogne des ressortissants de la CEDEAO ici à Bangui. Ces derniers ont tenu un meeting la semaine dernière devant l'ambassade du Nigeria pour protester contre ce qu'ils qualifient de frais exorbitants du titre de séjour. Le prix de ce titre de séjour passe désormais de 50 à 250 000 francs CFA pour les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEMAC et pour ceux de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui coûtait 100 000 il y a quelques années s'élève désormais à 650 000 francs CFA. Or, ces tarifs n'ont pas été pris en compte dans la loi des finances 2020 et à ce titre, l'ancien député Thierry-Georges Vakat avait intenté une action en justice suite à l'arrêté conjoint des ministres de la Sécurité et des Finances du gouvernement Grébada, augmentant les prix des documents administratifs. Malgré la décision du tribunal administratif qui a annulé le décret, l'entreprise libanaise continue d'appliquer ses prix. Question patara du jour, que se passe-t-il réellement au sujet du titre de séjour? Si les ressortissants d'autres pays africains se plaignent du prix exorbitant du titre de séjour, quel serait le sort de la diaspora centrafricaine? Entre un arrêté ministériel et une loi, quel est l'ordre protocolaire à respecter dans ce cas de figure? À qui profite cette affaire? Le gouvernement fait-il le sourd oreille aux multiples plaintes des centrafricains sur cette affaire? Les réponses à vos préoccupations dans un instant et avec nos invités sur ce plateau de Patara, le débat politique de Radio Ndiki Luka. Évidemment, je reçois M. Karl Blagué. Bonjour.
Bonjour Armando.
Vous êtes observateur de la vie sociopolitique de Centrafrique. Monsieur Mathurin Dimbélé Nakoué, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes coordonnateur du mouvement Centrafrique Debout, une organisation qui soutient les actions du pouvoir, ancien député. Et monsieur Martin Ziguélé, bonjour.
Bonjour.
Député de Bokalanga 3, président du parti Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain MLPC et ancien premier ministre du président Félix Patassé. Armand Nguendi, c'est bien moi. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndiki Luka.
L'actualité oblige, lançons les discussions d'abord sur cette tuerie de masse qui a lieu mercredi à Bossangwa où 14 personnes étaient tuées à 18 km de Bossangwa Centre. Quelle est la réaction du MLPC, membre de l'opposition démocratique, M. Martin Ziguélé?
Je vous remercie. Je voudrais d'abord, avant d'intervenir sur ce sujet, dire le plaisir que j'ai à discuter aujourd'hui avec mon frère Dimbélé, avec qui on était à l'Assemblée et avec qui on était aussi à Khartoum. Peut-être lui et moi, en ce moment-là, on pensait qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus de crimes dans notre pays ou d'assassinats à assez grande échelle. Mais nous constatons que les problèmes demeurent et c'est un plaisir de pouvoir discuter ensemble. Et le même plaisir, je l'éprouve vis-à-vis de M. Karl Blagué, parce que je rappelle pour l'histoire, et je m'arrête là, que son papa fut mon professeur de sociologie politique de la République centrafricaine en 1975 et a participé à l'éveil de ma conscience politique en tant que citoyen. Maintenant, pour revenir au drame qui est arrivé hier, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de ces jeunes compatriotes qui étaient à la quête de leur pain quotidien et qui ont été fauchés dans la fleur de l'âge. Et je m'incline devant leur mémoire et je présente mes condoléances et celles du MLPC à toute leur famille. Nul ne peut se réjouir d'une telle situation. Et la réaction du MLPC, c'est une réaction républicaine. C'est de dire qu'il ne faut pas que nous nous habituions à la récurrence de ces cas de perte de vies humaines. Avant-hier, il y a eu des événements à Bambari. Hier, il y a eu le cas du sultan maire de Kouy. Aujourd'hui, c'est à Bossangwa. Il faut que la justice de notre pays se saisisse rapidement et de manière crédible de cette situation-là pour qu'on en identifie les auteurs. Parce que je constate que le débat se focalise sur les auteurs. Mais le débat ne se focalise pas sur les actes. Parce que nul ne peut être devant la mort sans que justice ne soit faite. Donc c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment, vraiment très peiné par cette situation. Et nous publierons un communiqué dans les heures qui suivent en appui à mon intervention déjà hier sur Twitter pour demander justice.
Oui, Monsieur Dimbélé Nakoué, vous avez écouté la situation, le drame de Bossangwa en ce mercredi. Quelle est donc votre réaction et surtout beaucoup plus du pouvoir par exemple?
Non, pas la réaction du pouvoir. C'est une réaction personnelle et peut-être en tant que MCD, je voudrais dire que c'est vrai, la mort c'est la mort et nul ne peut faire l'apologie de la mort, tuer n'est pas une solution, c'est clair. Cependant, il faudrait que il faut chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu ce massacre, quelles sont les vraies causes, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce pays pour éviter ce genre de choses à l'avenir. Et vous, en tant que média, vous devez, je pense, demander au gouvernement qu'est-ce qui s'est passé exactement et demander à la justice qu'est-ce qui est mis en place pour découvrir la vérité, les véritables
causes. Je vous rappelle très rapidement, M. Dimbélé, que le porte-parole du gouvernement et le gouvernement a publié un communiqué accusant la CPC dans cette tuerie de masse de Boussangoua.
Bon, parce que vous savez, ça dépend de quel côté on se trouve. Généralement, dans ce genre de trucs-là, dans ce genre de choses, de situations, ça dépend de quel côté on se trouve. Du côté de l'opposition, on accusera raisonnablement certainement le gouvernement. Et si on est du côté du gouvernement, on accusera les autres. Mais moi, je pense il faudrait que la justice cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce que, vous savez, tant qu'il n'y aura pas des solutions définitives à ce genre de choses, ça va perpétuer. On va aller, aujourd'hui c'est à Boussangoua, demain c'est à Bambari, après demain c'est à Berberati. Je pense que un gouvernement ne peut pas encourager la tuerie de ses citoyens. Je pense que les médias devraient s'approcher du gouvernement. L'Assemblée nationale, représentant le peuple, peut interpeller le gouvernement pour connaître la vérité. Malheureusement, l'Assemblée nationale est en vacances, mais il faudrait que le peuple sache qu'est-ce qui s'est passé exactement à Boussangoua.
Monsieur Karl Blaguet, avec la situation de Boussangoua ces derniers temps, la République est en deux, disent certaines personnes.
Merci Armando, je tiens à m'incliner sur ces innocentes victimes qui sont tombées et encore de nouvelles victimes, c'est trop. On en a marre, Armando. Quand un ressortissant centrafricain tombe, quand un ressortissant centrafricain se fait assassiner, c'est pas question d'opposition ou de pouvoir en place. Je suis désolé par rapport à la réaction de l'honorable Dimbélé, mais c'est un centrafricain, ce sont des centrafricains qui se sont fait massacrer. Alors, je pense que nous n'avons pas la mémoire courte. Il faudrait aller à l'essentiel. Il y a de cela quelques mois ou quelques semaines. Justement, comme le rappelait si bien le président Ziguélé, il y a eu l'assassinat du sultan maire de Kouy. Il y a eu l'assassinat du candidat du chemin de l'espérance de Mekassoua dans la Ouaka. Et bien d'autres. Nous connaissons le mode opératoire. Après les recoupements, les documentations, les nombreux témoignages. Que cela soit clair, je ne mets pas en mal nos forces de défense et de sécurité, Armando. Ne nous voilons pas la face, ne faisons pas perdre du temps au peuple centrafricain. Nous savons très bien que le chef de l'État et l'ancien Premier ministre Firmin Grébada sont allés en Russie pour amener des forces non conventionnelles, les mercenaires russes. Même si parallèlement à ça, le pouvoir de Moscou a dit qu'il a envoyé des instructeurs. Mais soyons sérieux, il y a des témoignages sur le terrain, il y a des témoignages dans les villages, il y a des témoignages des parents des victimes qui ont vu, et même au niveau de nos forces de défense et de sécurité, nos FAKA, que je soutiens nos forces de défense et de sécurité, parce que ce sont des centrafricains. Les FAKA ne peuvent pas commettre des exactions sur leurs frères, mais ce sont les mercenaires Wagner.
Mais pour l'instant, hein, c'est un peu difficile de dire avec exactitude.
Mais justement, pourquoi le porte-parole du gouvernement s'est précipité à peine 24 heures après justement ce crime odieux pour justement signer un communiqué et publier pour dire qu'automatiquement c'est la CPC? Non, soyons sérieux. Et en plus de ça, dans la localité de Boussangoua, qui est un fief du président, de l'ancien président de la République, François Bozizé. Mais il faudrait qu'il y ait un peu de logique.
Mais non seulement ça, nous ne sommes pas avec eux pour maîtriser comment ça se fait sur le terrain et aussi maîtriser l'idée qui est cachée derrière ce qui s'est passé.
Tout à fait, c'est pour ça que malgré ce que le porte-parole du parquet avait dit, que le parquet général allait ouvrir une enquête, mais il y a tellement d'enquêtes qui ont été ouvertes, il y a tellement de commissions d'enquête qui ont été mises en place, mais nous n'avons pas la suite. Et il a fallu que CNN, The Century, RFI et d'autres médias puissent documenter d'une manière vraiment crédible et pertinente certaines exactions de mercenaires russes. Je le répète, il faut faire le distinguo. Je ne parle pas de nos forces de défense et de sécurité, nos FAKA, que j'apprécie. Je ne parle pas de nos forces alliées rwandaises, que je soutiens. Mais je parle des mercenaires russes Wagner. Quand on recoupe tous ces témoignages et toutes ces documentations, ce sont ces forces Wagner
déjà,
qui sont remises en
merci
cause.
Merci beaucoup, monsieur. Mais sur ce point, les enquêtes sont mises en place ou bien se poursuivent sur le terrain. Il est trop tôt pour nous d'abord d'avancer, de confirmer certaines situations sur le terrain. Monsieur Dimelenako, vous voulez réagir hein,
je vois. Je voudrais dire à mon jeune frère que dans ce genre de situation, il faut avoir la tête froide. Il faut avoir la tête froide et ne pas se précipiter pour accuser telle ou telle faction. La situation est confuse. Le gouvernement, je vous disais, ça dépend de quel côté on se trouve. Le gouvernement dit que c'est la CPC. Les autres disent, lui, tel que lui, disent que c'est des mercenaires, russes. Vous savez, c'est très facile d'accuser. Mais c'est pas. Moi, je pense qu'il faut avoir la tête froide. Laisser les organes de l'État ou les organes indiqués mener l'enquête qu'il faut pour déterminer les responsabilités et définir qui a fait quoi dans ce genre de situation.
Et même sur le terrain, je vous rappelle qu'à Boussangwa, les autorités locales ne sont pas en mesure pour l'instant pour dire, comme vous l'avez dit avec exactitude,
voilà,
ce qui se passe sur le terrain.
Voilà. Tout à l'heure, je finis. Tout à l'heure, il a parlé de CNN, il a parlé de RFI, etc. Je voudrais lui rappeler dans quelle situation ces médias sont venus faire leur recoupement à Bangui. Dans quelle situation? C'est parce que les Russes sont là. Ils disent pas voler la face, oui, ne nous volons pas la face. Les Russes sont là et on sent une certaine fébrilité de l'autre côté. Et les gens, chacun défend son pain. Maintenant, il appartient à nous, Centrafricains, de savoir ce que nous voulons. Je voudrais également rappeler que lorsque, à un certain moment, la République centrafricaine a connu des problèmes, l'État a tendu la main à d'autres citoyens
quelques
africains.
Quelques secondes, oui.
Pour venir aider la RCA. Ça s'est très mal tourné. Mais il a fallu que ces gens-là viennent pour rétablir la paix.
Bon, nous allons couper court très rapidement.
Voilà.
Je vois, monsieur Zigeli, vous voulez répondre, hein, on va clôturer cette parenthèse-là. Nous avons fermé cette parenthèse que nous avons ouverte tout à l'heure.
Oui, il y a un sentiment que nous partageons tous autour de cette table, c'est que c'est un événement dont on aurait dû se passer, c'est-à-dire le massacre de nos compatriotes, quels qu'ils soient, quels que soient les auteurs, quelles que soient les circonstances. Nous devons faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. Et justement, lorsque vous voyez la réaction du gouvernement juste après le massacre, avant même, comme vous l'avez dit, que les autorités de l'État, localement, ne puissent dire exactement qui a fait quoi. Le gouvernement a déjà fait un communiqué pour dire que c'est la CPC. C'est ce que nous voulons éviter. Parce que le débat va se transporter vers des accusations réciproques, en fait, d'acteurs qui n'étaient même pas sur le terrain et qui veulent régler politiquement un problème de droit. Parce qu'il s'agit de crimes de masse. C'est pour ça que nous demandons une enquête indépendante. Une enquête indépendante, c'est-à-dire qu'il y a une enquête de la justice qui se saisit de plein droit, mais il faut qu'il y ait également une enquête indépendante qui fasse appel aux populations locales, parce que ça s'est passé dans un village. Donc on connaît beaucoup de gens qui nous disent qu'il y a deux jeunes en moto-taxi qui ont pu s'échapper. Donc il s'agit de faire recours aux populations locales, aux autorités locales, pour qu'on puisse savoir la vérité, au moins une fois, et qu'on puisse arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple qui me concerne. Mon fils a été, il n'y a même pas deux semaines dans la région, je l'ai envoyé pour faire une commission au village, il est passé par là. Ma fille qui était candidate à Power 5, elle est passée plusieurs fois là en moto. Ça aurait pu être donc mon enfant. Donc, par principe, nous ne souhaitons pas que de telles
Mais
choses
vos
se
vos enfants n'ont pas été attaqués.
Non, c'est pour ça que je dis que par principe, nous ne voulons pas que des choses de ce type-là arrivent dans notre pays. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde.
Mais, monsieur Zigeli, au regard de la situation actuelle, vu le développement que vous venez d'avancer, est-ce qu'on peut dire que la situation sécuritaire est hypothétique actuellement à l'intérieur
du
pays?
Non, mais écoutez, vous savez, je vois monsieur Blague en face et je me rappelle de la plaidoirie de maître Tiangaï lors du procès de Bokassa. Quand la propre sœur de Bokassa, Bogalama, a dit qu'elle n'a jamais connu Bokassa de sa vie. que Bokassa est un gars qui est né à Brazzaville, qu'elle ne connaissait pas Bokassa, alors que tout le monde savait le rôle qu'elle jouait aux côtés de Bokassa. Moi, je suis de cette génération-là, c'est pourquoi j'en parle. La peur du Centrafricain est une peur qu'on ne s'explique pas. Les Centrafricains ont peur. C'est-à-dire, quand il y a un danger dans le pays, au lieu d'avoir le courage de dire que ça ne va pas, ils ne le diront pas. Parce que chacun a peur. Une peur atavique. Et comme disait Sankara, mais si l'esclave ne veut pas s'affranchir, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde sait, comme disent les prêtres, que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des forces dont personne ne parle. Par exemple, les Rwandais. Personne. Je n'ai jamais entendu un Centrafricain critiquer les troupes rwandaises.
Tout à fait.
Mais les forces paramilitaires russes posent des actes que même les autorités de l'État en privé critiquent. Mais ils ne le font jamais publiquement. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la peur. La peur de quoi? La peur d'être menacé, d'être poursuivi, de perdre son boulot. C'est ça, la peur du Centrafricain est une peur négative.
Tout à fait.
Moi, je vous dis...
Quelques secondes, monsieur.
Moi, je vous dis, c'est le rôle du président de la République d'assurer la sécurité. Peut-être qu'il a tenté une voie. Mais lorsque cette voie s'avère périlleuse, parce que cette histoire, c'est une sale affaire. Comme disent les Anglais, it's a dirty trick. Ça va nous amener loin. En tout cas, ça va casser l'objectif qu'on recherche. C'est-à-dire l'apaisement du pays. Donc, qui ne s'est pas trompé sur cette terre? Qui ne s'est pas trompé?
Vous avez épuisé votre temps, monsieur Ziguele. Voilà. Je vous donne 15. Ça vous va, ouais. Je reviens vers monsieur Dimbélé qui voulait réagir. Je vous donne une minute, comme j'ai donné à monsieur.
Non, vous savez, ça fait plaisir d'être devant monsieur Ziguele, conférence du président ailleurs. Ça fait plaisir d'être là. Bon, je voulais dire peur, ok, d'accord. Mais vous savez.
Non, je ne parle pas de toi, Aurora. C'est notre comportement, nous tous.
Non, j'ai compris. Mais vous savez. Avant le 13 janvier, en décembre, lorsque la CPC a lancé ses offensives, ils étaient arrivés à la porte de Bangui. Je répète, ils étaient arrivés à la porte de Bangui. Il a fallu des hommes forts, pas nos soldats, il a fallu que certaines personnes réagissent.
Lesquelles?
Et je félicite la ministre des Affaires étrangères. Cette dame-là, je ne croyais pas en elle au début. Je ne croyais vraiment pas en elle. Mais ce jour-là, lorsque le premier vice-président Mapenzi et moi avions invité les ministres en charge du dossier sécuritaire en Centrafrique, nous les avons appelés. Et ce qu'ils nous ont dit, je ne voudrais pas le répéter ici, j'ai eu peur. J'ai eu peur et nous sommes allés rencontrer le chef de l'État. Nous l'avons rencontré et c'est comme ça que la ministre des Affaires étrangères, la seule, c'est elle qui a réagi pour dire que la situation va s'améliorer. Parce qu'après, les forces portugaises étaient alliées. Il n'y avait pas de Russes. Le 13 janvier. Mais si ces gens-là n'avaient pas été là, vous pensez que la MINUSCA, les FACA, auraient réussi à mettre hors d'état de nuire ceux qui avaient tenté de prendre le pouvoir à Bangui? Vous pensez? Non. Je pense qu'il faut qu'à un certain moment, nous soyons conscients de la situation sur le terrain aussi. Il y a une lutte.
Monsieur, oui.
Non, attendez,
oui,
je finis là.
Vous finissez rapidement.
Il y a une lutte, et c'est la vérité. Il y a une lutte sérieuse entre les grandes puissances en Centrafrique. Et il y a des désinformations. Il y a des désinformations qui dénaturent les actions des Russes sur le terrain. Et les Russes également amènent des désinformations sur les actions des Français en Centrafrique. Faisons très attention.
Oui. Je vous en prie, bouclons la boucle et revenons à notre thème du jour. Je vous en prie. Les ressortissants ouest-africains ont exprimé leur ras-le-bol ce lundi devant l'ambassade du Nigeria ici à Bangui. Ils protestent contre ce qu'ils qualifient de trop cher le prix de la délivrance du titre de séjour. Et ils demandent en même temps la libération de 19 membres de leur communauté détenus depuis plus de 10 jours au commissariat du port à Bangui, un des manifestants sous l'anonymat dans ce débat.
Aujourd'hui, ça concerne tous les gens de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a 19 personnes qui sont emprisonnées de toutes les nationalités confondues. Et cette carte de séjour, tout le monde sait qu'elle était à 150 000 francs CFA. Et aujourd'hui, on nous dit de payer 650 000. La loi dit la carte, c'est 100 000. Quand il va aujourd'hui, là où on prend la carte de séjour, je ne sais pas, cette société Almadina travaille pour qui? Travaille pour l'État ou bien travaille pour lui-même? Dans quel pays de l'Afrique vous avez vu une carte de séjour à 650 000?
Voilà, monsieur Martin Ziguele, vous avez défendu le respect de la loi budgétaire 2020 qui a fixé les prix à payer pour la délivrance de cartes d'identité nationale, de séjour et bien d'autres documents administratifs. Je rappelle qu'à l'époque, monsieur Ziguele, vous étiez allié du pouvoir. Pourquoi l'application de cette loi pose-t-elle problème depuis plus d'un an?
Oui, je vous remercie. J'étais l'allié du pouvoir, mais j'étais surtout président de la commission finance. Et nous étions 17 dans cette commission. Je tiens à le souligner parce que souvent, c'est expliqué comme si c'était le président de la commission seul qui prenait les décisions. Les décisions sont collégiales. Donc, c'était en octobre 2019 précisément que nous avons reçu le projet de loi des finances 2020. Et dans l'examen, dans le processus d'examen du projet de loi des finances, après l'étude en interne, naturellement, nous recevons en audition les ministres des finances et le ministre du plan. C'est les deux que nous recevons en commission des finances. Et s'agissant du ministre des finances, nous avons discuté de ce projet, parce que c'était un projet, qui fixait les prix des pièces administratives. Il y avait les cartes nationales d'identité, mais il y avait aussi des pièces administratives relatives au ministère des Transports, c'est-à-dire les cartes grises des véhicules, les permis de conduire, etc. Vous observerez, juste une remarque en passant, qu'il n'y a jamais eu de problème pour les cartes grises de véhicules, ni les capacités, etc. Le problème, c'est la carte d'identité. Je parle, vraiment, c'est une bonne idée que vous avez eue d'inviter aussi à ce débat mon frère Dimbélé, qui à l'époque était deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui a proposé une disposition du projet de loi des finances fixant les prix des pièces administratives. Et la carte nationale d'identité, la proposition du gouvernement, c'était 4500 francs. La question que la commission leur a posée, c'est de savoir qui fait l'opération. Le gouvernement, qui est le responsable de l'exécutif, nous dit, nous avons un contrat avec un prestataire dans le cadre de la concession des services publics. Pour nous, le gouvernement fait un projet, nous sommes supposés comprendre qu'en amont, tout le problème a été réglé et que dès le moment où la loi serait en vigueur, et la loi a été votée un vendredi 29 novembre 2019, je m'en souviens comme si c'était hier, tout le monde était content et on a dit on va relancer la machine de fabrication des cartes d'identité nationale à 4500 francs dans tous les commissariats de police de la République centrafricaine.
Et qu'en est-il pour les...
Oui, je n'ai pas fini. C'est très important ce que je suis en train de dire parce que les cartes nationales d'identité, c'est des pièces d'état civil qui se délivrent dans tous les commissariats de la République centrafricaine, qui sont censés se délivrer dans tous les commissariats de la République centrafricaine. Donc on a voté la loi. Et c'est au cours de l'année 2020 que nous recevons une correspondance au niveau de l'Assemblée nationale qui dit que, en fait, les cartes nationales d'identité sont payées à 6 500 francs CFA. Vous avez évoqué l'action judiciaire intentée par un député dans le cadre de cette démarche citoyenne contre cette pratique qui a été décidée par un arrêté interministériel. C'est-à-dire sans que la loi n'ait changé. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une violation de la loi et en droit budgétaire, ça s'appelle de la concussion parce que vous prenez de l'argent qui n'est pas prévu au budget de l'État. L'affaire, nous avons demandé parce que nous étions dans la démarche de trouver une solution. En tout cas, pour ce qui me concerne, quand je suis face à un problème, je suis toujours dans la démarche de chercher une solution, pas d'ajouter des problèmes à des problèmes. On a demandé au gouvernement de prendre l'étude de faisabilité du projet, de voir la structure des coûts et de s'entendre une fois et de nous amener une nomenclature des prix. En nous étonnant que, pour ce qui concerne le ministère des Transports, il n'y a pas eu de plainte. Mais pourquoi c'est sur le cadre qu'il y a des problèmes? Donc, on a demandé au gouvernement. Le gouvernement revient avec un nouveau projet dans lequel le prix de la carte d'identité est fixé à 6500. On dit, ben, il faut que vous nous expliquiez comment vous êtes passé de 4500 à 6500. Et il y a eu, je parle toujours sous le contrôle de l'honorable Dimbélé, chaque ministre avait son explication du phénomène.
Quelques secondes.
Et finalement, lorsque le projet de loi est arrivé, devant la menace de rejet du projet de la loi des finances, nous sommes arrivés à un compromis. Le compromis, c'était quoi? C'est de retirer du projet de loi des finances 2021 le dispositif relatif à l'augmentation du prix de la carte nationale d'identité de 4500 à 6500, donc de revenir au statu quo ante, en attendant qu'une commission soit mise en place par le gouvernement, l'opérateur et des députés.
notamment ceux de la commission finance, mais d'autres députés aussi, s'il en était besoin, pour que nous arrivions à un prix de la carte nationale d'identité. Mais pour les permis de séjour, est-ce qu'il y a besoin de débattre de cela? C'est le principe de la réciprocité. C'est le principe de la réciprocité. Et c'est ce que nous avons demandé au ministère des Finances d'inscrire dans le budget. Si des citoyens centrafricains, quelque part, payent 100 000 de frais de séjour, les citoyens de ce pays en Centrafrique payent 100 000. C'est un principe de droit international. Ce n'est pas un débat.
Voilà, vous avez fait 5 minutes. Vous avez fait 5 minutes. On voilà. va avancer au fur et à mesure. Je donne 5 minutes aussi à M. Dimbele Nakwe sur cette question. Qu'est-ce qui explique, monsieur, le non-respect des prix qui sont déjà arrêtés dans la loi budgétaire de l'année dernière par le gouvernement et l'entreprise Almadina pour l'exécution?
Je reviens sur. Je pense que c'est la solution que l'Assemblée nationale avait trouvée. Nous, à l'époque, et je pense que j'étais intervenu sur ce point-là de la tribune de l'Assemblée nationale, et nous avions proposé, et c'est cette proposition qui avait été retenue, qu'il faut retirer de l'ensemble de la loi des finances tout ce qui concerne cette situation, à savoir passer de 4500 à 6500, parce que nous avions estimé à l'époque...
6750, voilà.
Voilà, nous avons estimé à l'époque que le contrat entre Almadina et le gouvernement ne tombe pas sous les dispositions constitutionnelles, l'article 36 de la Constitution, qui demande à l'Assemblée nationale de vérifier, de donner l'accord. Donc, ce contrat-là, cette convention ne tombe pas sous le coup de ces dispositions constitutionnelles-là. Et partant de là, il l'a si bien expliqué, l'Assemblée nationale avait décidé que ce chapitre soit retiré de la loi des finances. Maintenant, quant à ce qui concerne la situation qui arrive, moi je demande simplement et très respectueusement au gouvernement de faire attention. Je voudrais seulement demander dans certaines situations, il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. C'est vrai, la société El Madina n'est pas une société philanthrope. Elle n'est pas venue ici pour les beaux yeux des Centrafricains. Elle est venue faire des affaires, donc faire des bénéfices. Mais il faut faire très attention. Il faut faire extrêmement attention parce que on peut profiter de ces petites situations-là pour noyer le pays. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, il faudrait
Mais déjà, M. Dimbele Nakwe, sur cette question, les Centrafricains, tellement qu'ils, sur les voies ou dans leurs activités quotidiennes, on leur demande des pièces autres, ils sont obligés, malgré eux, de payer déjà 6 500 francs. Et ceux qui viennent, vous avez écouté cette plainte là déjà.
Pour la carte nationale d'identité, je pense qu'il y a une adhésion, puisque tout le monde y va. Tout le monde va.
Est-ce que c'est pas une contrainte déjà pour
C'est une contrainte républicaine. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de carte nationale d'identité, comment voulez-vous vous promener dans le pays? Je voudrais simplement dire que l'établissement de la carte nationale d'identité est l'une des origines de nombreux problèmes de la Centrafrique. Vous savez, je suis d'accord avec Martin que les commissariats délivrent les cartes nationales d'identité, mais il est d'accord aussi avec moi que il y a des gens qui ne sont pas de ce pays-là, qui sont dans leur propre pays et qui, avant de venir en Centrafrique, à l'époque, avaient déjà la carte nationale d'identité de la RCA. En lisant les livres du conseiller diplomatique de l'Assemblée nationale, si vous lisez ce livre-là, vous verrez qu'il y a des gens qui ne sont pas centrafricains, qui n'ont rien à voir avec la RCA, mais qui ont les passeports centrafricains. Et encore, passeports diplomatiques. Il y a tellement de problèmes qu'il faut qu'un jour, on arrive à s'asseoir pour définir les origines de tous ces problèmes-là et définir les solutions à y apporter. Je pense que le gros problème, c'est la corruption. C'est la corruption parce qu'il suffit que quelqu'un amène quelque chose, un peu de sous, à un chargé de délivrer ces pièces pour que la personne rentre en possession de sa carte nationale d'identité. Un autre exemple. Pour étayer ce que je viens de vous dire, il y a ma femme qui, depuis combien de mois, va pour chercher sa carte nationale d'identité. Mais nous connaissons quelqu'un qui, en une journée, a eu sa carte nationale d'identité. On lui a amené ça à la maison.
On lui a amené ça à la maison.
On va arriver à la question de la délivrance, oui. Du délai et puis voilà, de cette centralisation seulement à Bangui où tous les Centrafricains quittent l'intérieur du pays pour venir s'en procurer. Mais avec cette question de ces cartes d'identité nationale et le prix où les Centrafricains commençaient à payer et la loi n'a pas été respectée, on applique en ce moment-là l'arrêté.
Mais nous vous avons dit, c'est que nous, à l'Assemblée nationale, à l'époque, la solution qu'on avait trouvée.
Et qui malheureusement n'a pas été respecté selon vous.
Mais vous constatez comme moi, et c'est là que j'ai dit.
C'est ce que je voulais ajouter.
Voilà, vous constatez comme moi, et c'est là que j'ai dit, c'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale à l'époque nous avions dit, il fallait que le gouvernement s'entoure de toutes les garanties, de tous les problèmes, de proposer à l'Assemblée nationale une fois pour toutes les solutions. Et nous pensions savoir que les solutions qu'ils avaient... Puisque le gouvernement avait défendu Mordicus le prix de la carte nationale d'identité à 6 500 francs. Et nous avions rappelé au gouvernement le prix de 4 500. Il n'y avait pas entente.
Bon, on va y revenir quand vous avez déjà épuisé votre temps. Après, vous allez prendre la parole, M. Ziguélé. De 100 000 francs, nous sommes à 650 000 francs CFA pour la délivrance du titre de séjour. Si l'entreprise Almadine préfère l'arrêté ministériel au détriment de la loi, à qui la faute, M. Karl Blaguet?
Merci Armando, mais je suis content et en même temps écœuré d'écouter l'honorable Djimbele Nakwe, qui lui m'a reconnu que malgré les tarifs inscrit dans la loi de finances 2020, Al-Madina est passé outre. Il a reconnu cette bavure et cette bêtise parlementaire. Mais il a mis ça sur la faute.
Ce n'est pas une bavure parlementaire. Les parlements, c'est pas eux.
S'il vous plaît, je termine, s'il vous plaît, M. Nakwe. Que c'est le gouvernement qui n'aurait pas appliqué. Mais ce n'est pas le rôle d'un parlementaire. Mais pourquoi à cette époque, quand vous saviez très bien qu'au niveau des marchés de passation, quand l'appel d'offres a été donné à Al-Madina, vous étiez là, vous vous êtes tu. Maintenant que la population, qui a un pouvoir d'achat très bas, et maintenant, vous savez très bien que les mécanismes d'octroi de la carte d'identité intègrent le principe, la problématique de la citoyenneté. Et en principe, les structures de délivrance de cette carte nationale d'identité devraient faciliter l'accès et justement tenir compte du pouvoir d'achat pour adopter un tarif accessible à tous. Mais apparemment, comme vous avez dit, le gouvernement a préféré la plus grande offre à travers des corruptions. Mais c'est extrêmement scandaleux. Alors, jusqu'actuellement, c'est à 6 500. Ça, c'est un de deux. Au niveau du principe de réciprocité, comme l'a dit le président Martin Ziguélé, j'ai fait l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait 14 pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai fait 9 ans à Dakar. Je suis passé par Lomé, là où il était un brillant gérant d'assurance à Lomé. Vous savez qu'il y a plus de Centrafricains dans la zone CDAO qu'il n'y a de ressortissants de la CDAO en République centrafricaine. Et en plus de ça, vous savez que nous avons des ambassades qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Vous avez des étudiants qui ont des arrêts de bourse qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Imaginez, de 100 000, on monte à 650 000 francs CFA. La carte de séjour pour un ressortissant. 250 000 même. S'ils appliquent le principe de réciprocité à nos ressortissants français dans la zone CDAO.
Centrafricains, pardon.
À nos ressortissants centrafricains, bien sûr. Dans la zone CDAO, vous voyez l'impact. Donc, je souhaite que le ministère de la Sécurité publique, j'aurais aimé qu'il y ait un responsable, même le ministre de la Sécurité publique.
Je rappelle que nous avons envoyé un courrier d'invitation au ministre ou au ministère de la Sécurité publique. Malheureusement, nous n'avons pas reçu un de leurs pour répondre à nos préoccupations.
Donc, ce sont des dossiers sensibles. Je pense que je reviens vers l'honorable Djimbele, qui s'est un peu contredit. Il faudrait que le gouvernement puisse se plier à la loi de finances. Dans le cas échéant, mais l'épée de Damoclès est dans le camp du Parlement. Ils ont laissé passer ça à coup d'enveloppe, comme ça se passe. Ils ont laissé passer ça. Ils ont fermé les yeux, comme d'habitude. Et voilà, maintenant, c'est le peuple centrafricain qui vit les conséquences. Vous voulez qu'on en arrive à une crise sociale? Ce n'est pas normal. Et pour l'instant, maintenant, malgré les fouilles, les campagnes de fouilles, vous l'avez si bien dit, j'ai suivi ça dans certaines de vos interventions sur vos ondes, malgré qu'on présente la carte d'électeur, les agents de la sécurité publique jettent ça, ils demandent à ce que les citoyens présentent la carte nationale d'identité. Entre-temps, c'était centralisé à la DSPJ, qu'on appelle brigade criminelle. C'est récemment qu'on a essayé de délocaliser. Mais en attendant, il y a toujours les contrôles. Je réaffirme, je le répète, la citoyenneté, la problématique de la citoyenneté est indiscutable. Donc les services d'octroi, de délivrance de la carte nationale d'identité doivent faciliter.
Mais ici, la... dans ce cas de figure, ce n'est pas la faute à Al-Madina.
Mais c'est la faute au gouvernement.
Parce que la loi dit que c'est à 4 500, mais un arrêté ministériel qui vient et qui dit qu'il faut payer à 6 500.
Mais tout à fait.
Donc Al-Madina n'a pas de problème.
Mais c'est la faute du gouvernement, justement. C'est le gouvernement qui a accepté malgré la loi de finances. Mais c'est extrêmement grave.
Oui, mais donc, monsieur Dumé, je pense que
le président, l'ancien président de la commission finance est là. Je voudrais clarifier la situation suivante. Dans le premier projet de loi de finances 2020, c'était 4 500. Dans le deuxième projet de loi...
Qui n'a même pas été appliqué avant.
Qui n'a pas été appliqué. La loi de finances 2021, le gouvernement a proposé 6 500 à l'Assemblée nationale. Nous avions discuté. Parce qu'il y a des parlementaires, il y a des députés qui défendaient l'esprit de 4 500 suite à la plainte de l'honorable Vakat. Et nous, par rapport à cette situation qui s'enlisait et par rapport au fait qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur le prix et le gouvernement et l'Assemblée nationale, je pense que c'est dans mon intervention, j'ai dit que cette convention ne rentrant pas sous le coup de l'article 36, de l'article 60, pardon, de la Constitution, et j'ai été défendu, j'ai été soutenu par l'honorable Ziguélé, qu'il était mieux qu'on retire l'ensemble de cette disposition de la loi de finances en attendant que le gouvernement propose à l'Assemblée nationale une situation raisonnable après s'être entendu avec la société.
Est-ce que cela a été fait puisque aujourd'hui sur le terrain ça n'a pas été fait.
Monsieur
Ziguélé voulait répondre à cette question.
L'honorable Dibélé a absolument raison et ce que monsieur Karl Blagué a dit en tant que citoyen observateur de la vie sociale également c'est juste. La première chose c'est que le prix de la carte d'identité de 6 500 ou 6 750 actuellement pratiqué est illégal. Le prix est illégal. Je le dis et c'est la vérité. Parce que la dernière loi des finances qui a fixé le prix de la carte nationale d'identité, c'est la loi des finances 2020 et le prix de la carte d'identité est de 4 500. Suite à l'adoption de cette loi, c'est le gouvernement, c'est-à-dire deux ou trois ministres qui ont fait un arrêté pour changer les prix. Et là, ils ont agi au-delà
l'ancien
de la
ministre
loi.
De la Sécurité en publique dehors, l'ancien ministre des Finances.
Je ne vois pas des individus, je vois les responsables de l'État. Je ne parle pas, ce n'est pas une démarche ad hominem, je parle de l'État. Et donc, il y a eu violation de la loi. Et nous avons voulu, pour sortir de cette situation, demander au gouvernement de mettre en place une commission pour que nous ayons le cahier des charges. Parce que qu'est-ce que Al-Madina a investi ? Jusqu'à quel montant ? Pendant combien de temps ça va s'amortir ? C'est par rapport à ça qu'on détermine le coût unitaire de la carte nationale d'identité. Et puis qu'on va discuter de la couverture nationale. Quand je dis qu'il faut que les commissariats de police délivrent des cartes d'identité nationales, ce n'est pas une invention de Ziguélé. C'est ce que disent les textes qui organisent la police centrafricaine. Ça fait partie de ses attributions. Maintenant, on va sécuriser le processus. On va sécuriser le processus et ça doit être dans le cahier des charges. Et on discute et on arrive à un prix et ce n'est pas fait. Troisièmement, la commission des finances a convoqué le ministre des Affaires étrangères pour dire « mais vous êtes diplomate ». Mais l'un des principes de base de la diplomatie, c'est la réciprocité. Si vous fixez des prix de ce type-là, des prix
de séjour,
est-ce que vous avez une... Vous vous êtes documenté, vous avez la documentation sur les pratiques vis-à-vis des centrafricains, des citoyens centrafricains dans ce pays. Nous n'avons pas eu de réponse. Et nous avons dit, la commission que nous avons demandé qu'on mette en place, cette commission-là pourra s'informer pays par pays pour savoir ce qui se fait aujourd'hui. Et appliquera le principe de la réciprocité. Vous savez que suite aux nombreuses crises, comme il l'a dit, beaucoup de jeunes centrafricains étudient dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et même des adultes qui vont s'installer là-bas. Et si on leur oppose ce que nous faisons ici, comment on va... Et puis, en plus, il y a une incidence sur l'état de nos relations avec ces pays.
Mais je voudrais savoir, voilà. Vous, M. Martin Ziguélé, lorsque vous parlez de la violation de la loi budgétaire à ce niveau, mais qui pourrait corriger cette violation ?
Mais la justice. On a commencé cette émission en parlant de la justice. Et nous revenons à la justice. La justice, c'est le pilier de la République. Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que M. Dimbélé, devant moi et moi, Ziguélé, nous avons fait notre travail. Nous avons demandé le respect des dispositions de la loi des finances 2020. Et nous avons demandé au gouvernement de mettre en place une commission pour revoir l'ensemble des prétentions des uns et des autres pour arriver à quelque chose qui sera inscrit dans la loi. Si le gouvernement ne le fait pas, en vertu de la séparation des pouvoirs, qu'est-ce que moi, député, je peux faire ? Sinon,
demander aux citoyens de porter plainte, d'aller devant la justice. En République, c'est la justice qui
tranche. Déjà, mais votre collègue à l'époque, Thierry Vakat, a gagné le procès devant le tribunal administratif sur ce point.
Oui.
Maintenant, l'application.
Mais alors, c'est à moi que vous posez la question. Je vous renvoie la question en tant que citoyen. Lorsque vous nous élisez, vous nous envoyez à l'Assemblée et qu'on vote des lois dans vos intérêts et que le gouvernement de votre pays ne respecte pas cette loi, vous en prenez à qui ? À votre gouvernement, pas aux députés. Mais nous avons fait notre travail. C'est ça que je voudrais souligner. Parce que ce qui est grave, Monsieur Dimbélé l'a dit, c'est une concession de service public. Donc c'est passé par la Direction Générale des Marchés Publics. Est-ce qu'il y a eu des offres concurrentes à Al-Madina ? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres avant de choisir Madina, Al-Madina ? Est-ce qu'on a vu ce que d'autres ont proposé ? Comment dans un pays de 5 millions d'habitants, où il y a 50% d'adultes, c'est-à-dire 2,5 millions d'adultes, vous ouvrez un centre d'innovation, un seul ? Et il a fallu que les citoyens crient pour qu'on en ouvre 4 à Bangui, au rythme de 50 demandes prises par jour. Si vous multipliez 5 fois 50, ça fait 250.
250. Oui.
Sur une population même de 2 millions d'habitants. Divisé 250 fois 2 millions et par 5 centres. Même si on ouvre les centres dans tout le pays, ça veut dire qu'on en a pour des années avant que le citoyen, le dernier centrafricain qui a 18 ans, sachant que les âges des citoyens augmentent chaque année. On est dans une histoire de fou. C'est ce qu'on appelle une usine à gaz. Et je reviens à ce que j'ai dit. Pourquoi les centrafricains ont peur de poser les vrais problèmes de leur pays? Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Je suis meurtri devant tant de lâcheté. Parce que dans un pays normal, l'administration de la sécurité de l'intérieur devait passer devant le tribunal correctionnel pour faute professionnelle. Devant le tribunal correctionnel. Parce que ce n'est pas possible. Non seulement la loi est violée, mais les conditions qui sont imposées pour la délivrance des cartes d'identité, Dimbélé l'a dit, c'est des conditions incroyables. J'allais même dire esclavagiste.
Oui, ça avait déjà terminé le temps que vous êtes parti, M. Voilà. Martin Ziguele.
Il faut que le processus s'améliore.
Je rappelle que nous avons tenté en vain d'avoir sur ce plateau un représentant du ministère de la Sécurité publique pour des amples détails sur cette question. Et nous continuons le débat avec M. Karl Blaguet, avec cette situation, puisque la loi a été votée, la loi n'a pas été respectée. Aujourd'hui, ceux qui sont appelés à respecter la loi ou bien faire respecter la loi ne le font pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener les gens sur le droit chemin?
Merci Armando. J'ai apprécié l'intervention de l'honorable Ziguele. Mais c'est simple. Qui est censé appliquer la loi votée par le Parlement? C'est le gouvernement, non? Quand le gouvernement ne l'applique pas, mais le Parlement prend ses responsabilités et vote une motion de censure. Ça signifie que le Parlement est complice. Le Parlement et le gouvernement sont complices.
Non, ça veut dire que vous accusez, monsieur.
Bien sûr, mais non, mais
c'est son droit.
Sûr, mais ouais, mais c'est mon droit. Le Parlement dispose d'un moyen coercitif. Le vote de motion de censure après justement la convocation des ministres concernés, le ministre des Finances et le ministre de la Sécurité publique. Mais si vous-même vous affirmez que malgré le vote de la loi de finances
et malgré l'action en justice d'un député,
en plus, le député Vakat, le gouvernement n'applique pas ça parce qu'il y a eu des faux fuyants de corruption, comme on a l'habitude de connaître dans ce pays, avec Al-Madina, qui est une société recherchée par les services secrets extérieurs, tels que le FBI et la CIA. Vous le savez très bien. Malgré ça, le gouvernement a cautionné et lui a donné le marché, malgré le pouvoir d'achat des Centrafricains très bas, et en plus de ça, l'accès à la carte nationale d'identité est un objectif citoyen.
On va écouter le directeur général de la police qui a annoncé l'extension des centres d'identification, mais pas pour la délivrance sur place de ces cartes. Écoutons, bienvenue Zekoué sur cette stratégie mise en place par la police.
Là, ça nous fait au total déjà 5 centres que nous avons déjà décentralisés. En plus de la maison mère qui est la brigade criminelle, ça fera au total 6 centres. Je pense que là déjà avec les 600, ça peut déjà prendre en compte toutes les demandes et apaiser la souffrance de la population centrafricaine. Par contre, nous allons continuer les négociations et avec la volonté du gouvernement, je pense que nous pouvons déjà préparer l'ouverture prochaine dans les deux grandes villes de la République, notamment dans la ville de Berberati et celle de Bambari. Beaucoup nous posent la question de demander pourquoi ne pas amener les machines et installer sur place au niveau de ces centres secondaires. Mais je réponds en disant que, vous savez, après la crise que le pays a connue, toutes les installations qui étaient au niveau de la brigade criminelle ont été saccagés et vandalisés par beaucoup plus la jeunesse. Là, aujourd'hui, le gouvernement, pour répondre aux besoins de la population, était obligé de sous-traiter avec une société privée qui est Almadina, qui a apporté la technologie, la compétence et a réussi à installer cette machine. Et ces machines sont vraiment sensibles. On ne peut pas les déplacer comme ça. Et pour des questions de sécurité, pour des questions également liant à l'électricité, c'est pourquoi ces machines-là, pour l'instant, sont installées dans l'enceinte de la brigade criminelle.
Voilà, vous venez là d'écouter le directeur général de la police centrafricaine. Bienvenue, Zoukoué. Monsieur Dimbele Nakoué, vous voulez réagir, hein? Vous avez écouté, oui. C'est un plus, hein? C'est un pas pour résoudre le problème.
Non, je voudrais commencer.
Rien que pour la délivrance. Hein.
Je voudrais commencer en disant que, vous savez, la politique, c'est comme un match de football. Lorsqu'on est à l'intérieur, on sent le poids du match sur ses épaules et dans ses pieds. Mais lorsqu'on est à l'extérieur, on fait des remarques aux joueurs. Allant jusqu'à lui dire pourquoi il n'a pas fait ça au lieu de faire ceci. C'est ça la politique. Et c'est normal. C'est normal qu'on réagisse ainsi. Parce qu'on veut avancer, parce qu'on veut gagner.
Qu'est-ce que vous voulez dire, si vous voulez vraiment expliquer davantage?
Non, vous avez compris.
Je n'ai pas compris.
Non, tous ceux qui sont là, les auditeurs ont compris. Non, je répète que la politique, c'est comme un match de football. Quand on est à l'intérieur, on sent le poids.
Non, en d'autres termes, mais, si ça vous va bien.
En d'autres termes, lorsque nous étions à l'Assemblée nationale, nous avons joué notre jeu à nous pour que une solution soit trouvée. Et la solution, c'est celle que nous avions proposée à l'époque au gouvernement. Je disais aussi tantôt que Almadina, ce n'est pas une citoyenne, une société philanthrope qui n'est pas venue ici pour s'asseoir et pour les beaux yeux des Centrafricains. Et nous aimerions que les lois du pays soient respectées. C'est vrai, tout le monde aime ça. Mais j'oppose à cela l'engouement du peuple centrafricain autour de cette histoire de délivrance de la carte nationale d'identité. Jusqu'à ce que le gouvernement soit amené à ouvrir d'autres centres. Aussi, nous tous savions...
Ce sont les centres d'identification déjà.
Oui, et nous tous, nous savions que depuis 1996, lorsque les mutineries ont commencé, on a arrêté de délivrer les cartes nationales d'identité aux citoyens centrafricains. On ne délivrait plus ces cartes nationales d'identité. On ne délivrait plus. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on reprenne la délivrance des cartes nationales d'identité aux centrafricains. C'est un peu nous qui sommes à l'origine de nos souffrances. Aujourd'hui, on dit Almadina, c'est ceci, Almadina, c'est cela. Mais ça, c'est le propre des centrafricains. Combien de boulangeries aujourd'hui en Centrafrique sont tenues par des centrafricains? Rien, rien. Combien de stations-service sont tenues par des centrafricains? Rien.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'entreprise concurrente avec Almadina.
Mais non, mais au Cameroun, qui est tout proche de nous, que je crois M. Ziguele connaît aussi bien que moi, au Cameroun, lorsqu'il y a un tel problème, les Camerounais, au lieu d'en faire un problème, cherchent plutôt à trouver une solution nationale. Monsieur Ziguele, Monsieur Karl Blagué, Monsieur Dimbele, est-ce que nous n'avons pas les moyens? Est-ce que nous ne pouvons pas nous réunir pour amener une machine afin de faire cela? C'est lorsque nous sommes incapables de le faire qu'on fait appel à d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a une autre plainte qui est, dont on n'en parle pas. La plainte, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent non, oui, mais nous sommes envahis par les autres, c'est eux qui font tout maintenant, ils prennent le terrain, ils prennent tout. Mais oui, mais c'est parce que nous voulons comme ça. C'est parce que nous voulons comme ça.
Voilà.
Vous voyez,
S'il vous plaît, pour rebondir à ce que l'honorable Dimbele a dit, la carte d'identité nationale, c'est pas sous le régime Touadéra qu'on a commencé à délivrer. Vous avez dit depuis 1996, après les mutineries, on n'a plus délivré les cartes d'identité nationale.
Exactement.
Mais à un moment, 2008, 2009, 2010, on délivrait. S'il vous plaît.
Parce que j'en ai eu.
S'il vous plaît, il faut dire la vérité au peuple, M. Nakoué, Dimbele Nakoué. Ça, c'est un 2. Mais vous dites que non, il n'y a pas de société qui pouvait rivaliser Almadina. Mais il y a des soumissionnaires. Parce qu'au niveau des appels d'offres, il y a une grosse magouille. Des fois même, il y a des prestataires, il y a des soumissionnaires centrafricains qui sont écartés parce que des terroristes ou bien ceux qui ont des gros sous ont corrompu les structures devons justement monsieur, choisir les monsieur, soumissionnaires. Monsieur s'il vous plaît, là, monsieur Nakoué, ne me coupez pas.
Monsieur Ziguelé, là, on a amené à monsieur Ziguelé, président de la commission de finances, une machine qui faisait des cartes nationales d'identité parallèles. La machine est toujours là à l'Assemblée nationale.
Vous n'allez pas me dire qu'il y avait qu'un seul soumissionnaire. Voilà. Vous n'allez pas me dire qu'il y avait qu'un seul soumissionnaire. Almadi n'était pas le seul soumissionnaire.
Monsieur Armando,
monsieur Ziguelé.
Puisque la commission finance était en charge de cette question, je peux vous assurer qu'il y avait plusieurs filières de fausses cartes d'identité ou de vraies fausses cartes d'identité. Il y en avait qui étaient animées par des fonctionnaires même de la police.
Voilà.
Il y en avait qui faisaient au quartier. Et le souci de faire une carte d'identité sécurisée, c'est un souci normal à féliciter. Mais le problème, c'est que le processus, en réalité, a été faussé depuis le départ. Parce qu'avant de lancer un appel d'offres, vous faites une fiche des caractéristiques techniques de ce que vous voulez. Et vous faites l'appel d'offres et le mieux disant à le marché. Ce que vous avez entendu dans l'intervention du directeur général de la police qui dit que on ne peut pas faire ça en dehors de la direction générale de la police parce qu'il n'y a pas d'électricité en province et tout. J'ai dit, je suis désolé. Si vous avez fait un appel d'offres ouvert au départ, pas lui, mais le gouvernement, parce qu'il n'est pas membre du gouvernement, on aurait pu avoir un mieux disant avec les spécificités techniques. Et c'est ce qui justifierait le coût de la carte d'identité. Parce que l'investissement est récupéré sous forme de paiement de la carte d'identité. Parce que, en droit strict, la carte d'identité est une pièce d'état civil. Elle est gratuite. Ça dit ce qu'on aurait pu acheter, c'est un timbre, peut-être de 500 francs. Mais si on paye 4500, c'est pour le service. Et le service doit être délivré partout. Nous avons 71 sous-préfectures en Centrafrique. On nous parle de 5 ou 6 centres. Voilà. Donc, moi, je reviens toujours à la même chose. Lorsque je suis en face d'un problème, je cherche à faire en sorte que nous puissions améliorer la situation. C'est ça mon état d'esprit.
Trouver une solution.
Voilà. Et dans cette affaire-là, nous l'avons dit en privé à l'Assemblée nationale, on peut le dire en privé aujourd'hui, le gouvernement a très mal enclenché le processus de manière non professionnelle et je constate que ça continue. Aller attraper quelqu'un au PK8 sous son lit pour l'amener, pour prendre, demander un papier qu'on ne délivre pas. Comment on peut appeler des comportements de ce type ?
Fin de ce débat politique de ce jour. Merci à toutes et à tous. Je rappelle que nous parlions de la plainte des ressortissants ouest-africains concernant la tarification du titre de séjour et de la délivrance de la carte nationale d'identité. Merci pour votre fidélité à cette émission et merci à vous, monsieur Mathurin Dimélé Nakoué.
Merci à tous.
Vous êtes coordinateur, je rappelle, du mouvement Centrafrique Debout, une organisation qui soutient les actions du pouvoir et ancien député de Sosonakombo. Merci aussi à vous, monsieur Martin Ziguelé.
Je vous dis merci à tous et puis je m'excuse de parler fort parce que c'est dans mes habitudes de parler fort.
Député de Bokaranga 3, président du parti Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain MLPC, ancien premier ministre du feu, président Félix Tshepatassé et monsieur Karl Blagué, merci à vous.
Merci Armando.
Merci pour votre participation, observateur de la vie sociopolitique de Centrafrique. Bien, merci bien aussi à vous. À la partie technique était assurée par Anne-Alex Pounemati. Bon week-end, prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.